Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans Politiquement Incorrect. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. À moins d'une semaine de la primaire de la droite et du centre, nous allons vous en dire plus sur ce scrutin unique avec Patrice Verchère. Bonjour.
Bonjour.
Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes député du Rhône, président du groupe Les Républicains au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et vous êtes l'organisateur de la primaire dans le Rhône. Alors pour la première fois de son histoire, Les Républicains organisent une primaire avec le centre le 20 et le 27 novembre. Qu'en pensez-vous ?
Bien, au départ, je n'étais pas forcément favorable à la primaire. Aujourd'hui, je suis chargé de l'organiser, mais c'est vrai que ce n'est pas dans les traditions de la droite d'organiser des primaires. Mais force est de constater qu'il n'y avait pas probablement de candidat naturel. Et donc, le choix a été fait de faire une primaire pour départager des candidats de qualité.
Ne pensez-vous pas que les primaires ont plus un effet de division que d'adhésion ? On voit chacun des candidats tente de se rallier des soutiens, d'évoquer des noms de premiers ministres pour certains.
C'est la raison pour laquelle, entre autres, je n'étais pas forcément favorable aux primaires. Mais il y a eu un choix de fait, notamment par les militants, d'organiser cette primaire. C'est vrai que le risque, il existe, de tension. La seule chose qui importe, c'est qu'après, on se rassemble tous derrière le candidat ou la candidate qui aura gagné cette primaire.
Est-ce que vous ne craignez pas de revivre le même épisode qu'en 2012, où on avait eu une guerre fratricide entre Jean-François Copé et François Fillon pour la présidence de l'UMP ?
Alors non, puisque l'organisation justement de cette primaire et du vote est fait de manière très professionnelle. Ce n'est pas un vote interne, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et la haute autorité qui en est chargée au niveau national a pris beaucoup de précautions pour éviter justement toutes les contestations possibles.
Vous n'étiez finalement pas du tout favorable à la primaire ?
Pas du tout.
L'ensemble des candidats à la primaire de la gauche en 2012 ont tous obtenu un ministère ensuite, excepté Martine Aubry qui l'a refusé. On distribue les portefeuilles ministériels finalement pendant ces primaires.
Eh bien, je pense que ça sera c'est le risque en fait que celui qui gagne avec les alliances du second tour, eh bien, s'il gagne un présidentiel, fasse bénéficier à ceux qui l'ont soutenu d'un poste ministériel. Je pense que ce n'est pas une bonne chose, puisque, vous l'avez rappelé, l'élection présidentielle française, qui est très particulière, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le peuple de France, et il y va avec son projet et son programme. S'il doit faire des alliances, il faut que ça soit très clair dès le début. On a vu toute la difficulté du gouvernement, enfin des gouvernements successifs de François Hollande, où, à force d'avoir mis tout et son contraire, eh bien, on arrive à des choses un peu bancales. Donc j'espère que le futur président de la République, si c'est quelqu'un de droit, ce que j'espère, celui qui gagnera la primaire, n'ira pas jusqu'à nommer tous ceux qui ont été candidats à la primaire ministres, parce que sinon il y aura de plus en plus de candidats pour être à la primaire, pour devenir ministre.
Vous n'imaginez pas Jean-Frédéric Poisson ministre, par exemple ?
Paradoxalement, si, je le vois très bien ministre, parce qu'il est bourré de talent et de qualité. Je ne partage pas toutes ses opinions, mais c'est quelqu'un qui est un très gros travailleur et je pense qu'il pourrait apporter un plus, par exemple. Mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas parce qu'on est candidat à la primaire qu'on doit de facto être ministre demain. Et à l'inverse, il ne faut pas s'interdire de prendre quelqu'un de la primaire également. Mais il ne faut pas que ça soit de fait un ministère possible pour les gens qui se présentent à la primaire. Ça n'aurait aucun sens, à mon avis.
Nous allons maintenant aborder l'organisation des primaires de façon pratique. Vous en êtes le responsable dans le Rhône. Comment fait-on pour aller voter à la primaire de la droite et du centre ?
Eh bien, c'est assez simple. Il y a sur l'ensemble du département du Rhône et de la métropole de Lyon 281 bureaux de vote. On a essayé de les répartir de manière à ce qu'ils ne soient pas trop éloignés les uns des autres pour que chacun puisse aller voter. Donc en fait, chaque Français inscrit sur les listes électorales au 31 décembre 2015 peut aller voter à la primaire, de la droite et du centre. Alors pour trouver son bureau, parce qu'on a fait des regroupements de bureaux, si je prends l'exemple par exemple de Cours, eh bien ceux de Ranchal, Tel, Cours-la-Ville et Pont-Trembouze vont venir voter à Cours. Et après ça se présente comme un bureau traditionnel, il y a juste une différence, c'est que quand vous rentrez dans le bureau, vous aurez regardez avec votre carte d'identité, il faudra votre pièce d'identité, il faudra payer 2 euros et signer une charte comme quoi vous partagez les valeurs républicaines de la droite et du centre, puisque c'est ouvert uniquement à des gens qui sont issus, qui ont des idées de la droite et du centre. C'est
pas ouvert. Donc pas d'électeurs de gauche ?
Bien, s'ils viennent, on ne peut pas interdire, mais ça veut dire qu'ils signent une charte. Alors c'est vrai, cette charte n'est qu'une charte morale. Mais ça peut amener à ce que le scrutin soit biaisé.
Vous seriez favorable à ce que les électeurs de gauche puissent venir voter ?
Chacun peut venir voter, mais il y a une primaire à gauche, il faut que chacun respecte la primaire. Alors, je pense qu'à la marge, il y en a qui vont venir, mais je pense qu'ils ne sont pas si nombreux que ça. Ceux qui vont venir nombreux, c'est ceux qui n'ont pas forcément des idées politiques, qui votent parfois à gauche, parfois à droite, ceux-là, oui, mais quelqu'un qui est vraiment ancré à gauche, je vois mal signer une charte comme quoi il partage les valeurs de la droite et du centre.
Quel est le montant de l'opération ?
Ah ben, le montant de l'opération, je ne le connais pas parce que c'est au niveau national, mais c'est plusieurs millions d'euros. C'est la raison pour laquelle il y a le paiement de 2 euros à chaque tour de scrutin. Parce que ce n'est pas l'État qui organise, c'est une association, c'est pas non plus les Républicains qui organisent, hein, c'est une haute autorité qui est à côté des Républicains.
Qui est indépendante des Républicains.
Qui est complètement indépendante, puisque les personnalités qui en sont membres sont des personnalités issues de la société civile, pour beaucoup d'anciens magistrats, soit du Conseil d'État, soit de la Cour des comptes, d'autres, de la Cour de cassation. Donc c'est vraiment des hauts fonctionnaires qui n'ont jamais été membres d'un parti politique, qui sont chargés de l'organiser. On a voulu vraiment, pour éviter justement les écueils de la dernière fois avec les élections internes qu'il y avait eu. Donc là, c'est vraiment une organisation très, très sérieuse et assez militaire. C'est la première fois qu'on aura récupéré 45 millions d'électeurs, enfin de noms, les listes électorales de l'ensemble du pays. La primaire de la gauche n'avait pas réussi à obtenir toutes les listes électorales, notamment dans les plus petits villages. Nous, on a réussi, c'était un gros travail, à récupérer l'ensemble des listes. Mais ces listes-là, il y a un contrôle de la CNIL pour protéger, bien sûr, les noms des personnes qui n'ont pas le droit de constituer de fichiers. Par contre, les personnes, une fois qu'elles auront voté, elles pourront, si elles le désirent, sur un cahier, laisser nom, prénom et adresse, ainsi qu'adresse mail.
Dans le but d'adhérer au parti ?
Non, pas du tout. S'ils veulent, mais...
Dans quel objectif, alors ?
L'objectif d'être informé pour la future présidentielle des actions du futur candidat, puisqu'ils se sont déplacés. Donc on peut supposer, voilà. Mais c'est uniquement sur la base du volontariat. C'est-à-dire que le fichier des listes électorales, lui, sera détruit. Donc on n'a pas le droit de l'utiliser. Donc quelqu'un qui viendra pour signer sur la liste électorale, la liste d'émargement, comme une élection normale, là, cette liste d'émargement sera supprimée. Par contre, à la fin, ceux qui le désirent, uniquement ceux qui le désirent, pourront laisser leur nom, prénom et adresse, numéro de téléphone, pour qu'ils puissent être contactés, parce que s'ils souhaitent être contactés pour notamment la future présidentielle.
Nous allons maintenant aborder l'actualité régionale. Suite au démantèlement de la jungle de Calais, la région va accueillir 751 migrants sur son territoire, dont certains à Saint-Denis-de-Cabanes dans la Loire. Laurent Wauquiez, le président de la région, et vous-même, président du groupe Les Républicains à la région, y êtes fermement opposés. Est-ce toujours le cas et pourquoi ?
Nous sommes opposés à ce que l'on impose aux maires les migrants.
Pas opposés à l'arrivée des migrants.
Si des maires qui connaissent bien leur population considèrent que leur village, leur ville, leur commune peut accueillir, parce qu'elle a les conditions pour, parce que la population y est pas défavorable, et ma foi, moi, ça me pose pas de problème. C'est le problème du maire, entre guillemets. Mais là, on parle vraiment, au moment où on a parlé de cela, c'était le fait que le gouvernement imposait au maire, il est un peu revenu en arrière, le ministre de l'Intérieur, mais voulait imposer au maire la présence de migrants sur leur territoire, alors qu'ils n'étaient pas favorables. C'est le cas notamment dans certaines communes, si j'ai bien compris, à Saint-Denis-de-Cabanes, le maire était un peu mis devant le fait accompli. Donc ça, moi, j'ai toujours dit que si le maire était favorable, sur ma circonscription, j'ai rien à y redire. Si les maires sont défavorables, je serai à côté d'eux si l'État veut leur imposer. C'est ça qui est important. On n'impose rien aux communes, parce que je pense que c'est les maires qui connaissent le mieux leur population et c'est les mieux à même de dire oui, on est en capacité d'accueillir, non, on n'est pas en capacité d'accueillir. Et puis ensuite, je considère et nous considérons qu'on n'a pas à faire payer aux communes l'échec du gouvernement. Parce que ce qu'on oublie derrière cela, c'est quand même l'échec du gouvernement sur Calais et sur les migrants. On décide à ce niveau-là de répartir les migrants sur l'ensemble du territoire national. Est-ce qu'il y a d'autres solutions de proposer ? Aujourd'hui, il y a plus de policiers et de gendarmes à Calais pour éviter que les migrants partent, parce que ce qu'ils souhaitent la plupart du temps, aller en Angleterre, alors qu'on en a beaucoup moins pour éviter qu'ils viennent par la frontière, notamment des Alpes-Maritimes, à Menton. Donc on est quand même dans un paradoxe. C'est-à-dire qu'on rentre facilement en France, mais on interdit de sortir. Donc je crois qu'il faut revoir les accords du Touquet, qui datent de 2003, qui était dans un contexte complètement différent, puisque la population migratoire était bien inférieure. Aujourd'hui, la situation a changé. Il y a eu le Brexit aussi qui vient se rajouter là-dessus, sur le vote des Anglais. Donc moi, je considère qu'il faut revoir les accords du Touquet, et la France n'a pas aujourd'hui à assurer la frontière de l'Angleterre sur son territoire.
La grogne des policiers, justement, continue et elle s'étend aux régions. Le ministre de l'Intérieur a reçu 2 représentants des policiers. Il dénonce un manque de reconnaissance, notamment, et surtout un manque de moyens. Comprenez-vous leur exaspération ?
Oui, d'ailleurs, j'ai participé au rassemblement silencieux auprès de nos policiers. C'est vrai qu'il y a un ras-le-bol qui date déjà de nombreux mois et de nombreuses années. Moi-même, j'avais interpellé le préfet délégué à la sécurité pour lui en faire part, puisque j'avais des syndicats qui étaient venus me voir. Il y a plusieurs raisons à cela. Un, les policiers, c'est vrai qu'il y a un manque de reconnaissance pour certains, parce qu'il y en a qui sont là aussi pour les soutenir. Ils vivent des situations très difficiles, notamment en ville, parce que là, on parle de police, donc c'est essentiellement des interventions en ville, où il y a du caillassage, et ils considèrent que la justice n'est pas assez ferme vis-à-vis de petits voyous et de délinquants importants.
Et a-t-on les moyens d'être plus ferme ?
On a les moyens si la loi le permet. Et la loi aujourd'hui, notamment les peines planchers qui a été supprimée par le pouvoir de gauche, fait qu'aujourd'hui, les multirécidivistes ne sont pas suffisamment punis. Je veux bien, en tant que juriste moi-même, dire on donne une chance à quelqu'un, on emprisonne peu de temps parce que c'est sa première fois, voilà. Mais quand il y a des gens qui sont arrêtés de multiples fois et qui passent quasiment jamais par la case prison, ça pose problème quand même, en termes d'autorité. Donc là, il y a un vrai problème. Et puis je pense que les policiers ont été également marqués par les propos du ministre de l'Intérieur quand il a parlé de sauvageons pour ceux qui ont failli tuer des policiers. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que parler de sauvageons, alors que c'est des criminels qui ont voulu tuer, c'est quand même pas le terme approprié. Et là aussi, je pense que ça a dû jouer dans l'aspect de la contestation et du manque de reconnaissance de la part du ministre. Ensuite, on nous rabâche comme quoi il y a plus de moyens vis-à-vis de la police. Or, jusqu'en 2015, la Cour des comptes vient de rendre un rapport où, en fin de compte, il n'y a pas eu les effectifs tels que promis et vendus par le gouvernement actuel. Donc,
Nicolas Sarkozy en avait supprimé 13 000 durant son quinquennat.
Mais on n'a jamais nié qu'on n'avait pas supprimé des policiers. Simplement, quand on dit depuis 3 ans qu'il y a une augmentation des effectifs de police, la Cour des comptes vient de dire que c'est faux. Donc voilà, nous, on ne dit pas qu'on n'a pas supprimé des policiers. Il y a eu des suppressions de postes de fonctionnaires sur l'ensemble des ministères. Mais on l'assume. Mais on ne dit pas l'inverse.
Pour terminer, depuis plusieurs mois, les communes de Cours-la-Ville, Telle et Pont-Trembouze ne forment qu'une seule commune. Vous avez orchestré cette fusion avant de partir prendre des responsabilités à la région. À l'heure actuelle, est-ce que vous en êtes satisfait ? Quel bilan en tirez-vous ?
Bien, écoutez, quand je discute avec le maire de Cours, le maire délégué de Pont-Trembouze, le maire délégué de Cours-la-Ville, le maire délégué de Telle, ils ont l'air d'être satisfaits de cette fusion. Même si ça leur demande beaucoup de travail, il y a une bonne cohésion, il y a une bonne cohésion d'équipe, et ça, c'est important. Au niveau financier, ça se passe bien également, puisque l'État... Il y a eu quelques projets financés de manière très correcte, notamment la salle municipale de Cours-la-Ville qui a été refaite, mais aussi le projet de mairie à Telle, où on atteint des subventions relativement importantes qui sont dues essentiellement à la création de cette commune nouvelle. Il y a le maintien des dotations. Et puis aujourd'hui, le gros travail qui doit être effectué, c'est de faire des économies d'échelle. Donc il y a un gros travail qui doit être fait en partenariat bien sûr avec le personnel, voir les départs à la retraite. Voilà, il faut trouver des économies, et je pense que cette fusion va permettre de trouver des économies à terme. Et puis surtout, cette fusion, cette création de communes nouvelles va aussi permettre une baisse de l'imposition sur 12 ans pour la commune de Cours, pour une grande majorité de contribuables. Et ça, c'était aussi un objectif.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent d'avoir fui vos responsabilités en partant ?
J'ai jamais écouté quelqu'un me faire ce reproche-là, puisque je l'avais annoncé lors des élections municipales de 2014 que je ne ferai pas tout le mandat. Donc je n'ai pas fait tout le mandat, et je l'ai écrit, donc je l'assume.
Merci à vous, Patrice Verchère.
Merci.